Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey child. Honey child.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel du Centre français des musiques juives. Notre précédente émission était consacrée à Cher Raymond, ce grand maître de la musique savante arabo-andalouse. Et ce soir, nous allons changer totalement d'univers musical et vous faire découvrir un compositeur dont les musiques ont fait le tour du monde et dont le nom reste pourtant à ce jour curieusement peu connu du grand public. Ce compositeur a une carrière peu ordinaire puisqu'il est passé de la musique savante à la chanson populaire avant de revenir dans les 20 dernières années de sa vie à des compositions inspirées du monde juif d'Europe de l'Est. Et parmi les très nombreuses chansons qu'il a écrites, il y a notamment celle-là que vous connaissez certainement.
J'aime planer sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard? Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi, j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Planer sur les grands boulevards, l'espoir d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur des grands boulevards.
Les grands boulevards, interprétés ici par Yves Montand, une célèbre chanson de 1949 dont la musique a été composée par Norbert Glanzberg. Et justement, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Serge Glanzberg.
Bonsoir.
C'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir pour parler de l'œuvre de votre père, Norbert Glanzberg. Et votre père était un homme peu commun, et je suis sûr qu'à la fin de cette émission, on va s'en rendre compte. Il s'est marié en 1952 avec votre mère qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Marichka. Et vous êtes né quelques années plus tard, est-ce qu'on peut dire votre date de naissance sans être indiscret,
59, ouais.
En 1959. Donc vous avez bien connu votre père, puisqu'il est décédé en 2001. Et la première question que je voudrais vous poser est un peu personnelle, mais en tant qu'enfant, quel genre de souvenir vous aviez de votre père, ou même plus tard, souvenir de Norbert Glanzberg?
Alors quand j'étais petit, en fait, c'était quelqu'un qui était tout le temps au piano, en train de jouer les grands classiques de la musique classique. Il jouait Beethoven, Wagner, Brahms, il déchiffrait des partitions, et de temps en temps, il avait une idée. Et lorsqu'il avait une idée, ma mère devait arrêter de faire la vaisselle, je devais arrêter de jouer en faisant du bruit, il fallait tout arrêter comme si c'était le blitz, comme si c'était le couvre-feu. Et donc, pendant des heures, jusqu'au milieu de la nuit, il pouvait essayer de trouver le refrain qui allait avec le couplet qu'il avait déjà trouvé instantanément.
Il composait sur son piano directement ?
Il composait dans sa tête, et ensuite il essayait de trouver des enchaînements harmoniques au piano, oui.
Ce qui est tout à fait amusant, c'est qu'en fait, vous avez dit qu'il jouait de la musique classique à longueur de temps, et en même temps, bon, il est très connu comme compositeur de chansons, on verra qu'il a écrit après une œuvre classique très importante, mais c'est comme si cette musique classique le nourrissait dans son inspiration alors pour composer ses chansons. C'est un peu ça que vous voulez dire.
Il y a un petit peu de ça, mais en fait, il est connu pour ses chansons, mais ça n'est jamais ce qu'il a voulu faire. En fait, il était destiné à être compositeur déjà chef d'orchestre pour de la musique symphonique. Il avait appris ça en Allemagne dans sa jeunesse. Il avait commencé à écrire des musiques de films. Et lorsqu'il est arrivé en France, il n'avait pas du tout les contacts dans l'élite, dans l'intelligence française. Donc, il a dû travailler il a dû prendre un accordéon et il a dû travailler, en fait, avec des gens qui faisait de la musique légère, comme on disait en Allemagne.
Mais si vous me permettez, justement, parce que sa vie est un roman à votre père, ouais. À Norbert. Et je voudrais juste qu'on revienne vous avez parlé de sa naissance. Je crois qu'il n'est pas né d'ailleurs en Allemagne, il est né...
En Pologne, en
Galicie, exactement. Mais il est resté très peu de temps. Hein. Je crois qu'à l'âge de 1 an, sa famille a déménagé pour trouver des conditions de vie meilleures. Et s'est installé à Würzburg, qui est en Bavière, si je ne m'abuse. Et donc votre grand-père, son père, parlait couramment le yiddish, d'après ce que...
Il parlait yiddish avec ma grand-mère. Et lorsqu'ils se sont installés en Allemagne, en fait, ils parlaient yiddish entre eux. Ils ne voulaient pas que... Ils parlaient surtout yiddish pour que mon père ne comprenne pas.
C'est la situation classique qui se passe dans toutes les familles.
Exilées, voilà. Quelle que soit la langue, voilà. Mais évidemment, c'était une langue qui était très comique, une langue qui transmettait très bien l'humour. Et le petit Norbert adorait attraper des phrases, des tournures, surtout des insultes en yiddish. Donc il le maîtrisait parfaitement, mais il ne l'a jamais vraiment pratiqué durant sa vie. Sauf pour se raconter des blagues avec quelques autres exilés qui fréquentaient lorsque j'étais petit.
Mais c'est sans doute cet environnement du yiddish qui l'a entouré, ce Yiddishkeit qui lui a inspiré en 1985 sa suite yiddish, qui était une œuvre écrite à l'origine pour deux pianos, puis qui a été orchestrée, je pense, un an avant sa mort par le chef d'orchestre Fred Schalin. Et cette suite yiddish comporte 7 courtes pièces dans l'esprit donc de ce monde yiddish savoureusement décrit par le grand écrivain Isaac Bashevis Singer, à qui cette œuvre est d'ailleurs dédiée. Et je vous propose d'écouter dès à présent la première de ces pièces qui s'appelle Innstetten, dans le village, qui est magnifiquement interprétée ici par Jeff Cohen et Noël Lee dans un CD qui s'intitule A Yiddish Touch in Paris. Thank you. entendre la première pièce de la suite yiddish de Norbert Landsberg, qui s'intitule Innstetl, dans l'interprétation de Jeff Cohen et Noël Lee. Serge Landsberg, je crois que vous souhaitez apporter des précisions et même des rectificatifs par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Donc je vous laisse la parole avec grand plaisir sur cette suite yiddish.
Norbert avait écrit cette suite de 1980, effectivement, et il l'avait pensée symphonique. Simplement, comme il était inconnu dans le monde symphonique, il avait réfléchi à comment la faire connaître. Et un de ses jeunes amis, Jean-François Tsigel, lui avait proposé de l'écrire pour deux pianos, en lui disant « Norbert, tu es très connu dans le monde de variété, mais malheureusement, tu es un débutant, un petit nouveau dans le monde de la musique classique, et il vaut mieux commencer par ce qui est réalisable. » Donc il a dit « Ah, tu crois, oui, oui. » Et d'ailleurs, Norbert avait commencé à écrire la maquette, le sketch de sa suite yiddish pour deux pianos, parce qu'il pouvait la jouer, et c'est moi qui l'ai enregistré sur un petit magnétophone qu'il avait acheté. Et cette idée, en fait, de l'écrire pour l'orchestre symphonique ne l'a jamais quitté, mais l'âge progressant, il n'avait plus la force pour écrire 26 minutes de musique symphonique, et puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas écrit. Et il avait rencontré, par hasard, en se promenant dans sa rue, un jeune pianiste-compositeur-chef qui s'appelle Frédéric Chasselin, qui était à l'époque l'élève de Pierre Boulez. Et il venait souvent chez lui pour lui montrer ses musiques, lui montrer ses partitions, lui demander ce qu'il en pensait, écouter des critiques. Et un jour, Frédéric l'appelle pour lui dire « Norbert, qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? Je fais des pâtes, viens manger à la maison. » Et il lui met dans les mains une grande partition à trois qui était le premier mouvement de la suite yiddish écrit pour 83 musiciens. Norbert se tait, lit ça jusqu'à la fin et lui dit « Continue. »
Ouais. C'est une très très belle histoire. Mais quand vous dites que il était peu connu dans le monde de la musique qu'on peut qualifier de classique ou musique savante, en même temps son début de carrière, c'est ses débuts si je ne me trompe pas, il a fait ses armes dans la musique dite classique et notamment il était assistant sur l'œuvre de Wojciech de Alban Berg, il a travaillé avec Bartok également qu'il a connu. Enfin, je veux dire il a au début vraiment travaillé dans ce monde de la musique classique, mais il a, je crois, aussi composé des films, des musiques de films.
Ce qu'il voulait, c'était être chef d'orchestre. Mais il y a eu la crise de 1929, il avait 19 ans à l'époque, en Allemagne, une crise terrible qui a fait que le théâtre dans lequel il était assistant avait dû fermer faute du budget. Et le directeur du théâtre de Würzburg, où il habitait, a téléphoné à son collègue d'Aix-la-Chapelle pour lui proposer ce jeune qui ne devait pas être au chômage, qui devait absolument continuer son travail, quel que soit le salaire. Norbert part à une audition à Aix-la-Chapelle, il prend le job et il a l'occasion effectivement de travailler là-bas sur des grosses créations avec les plus grands chefs qui étaient son contemporain, mais il était encore assistant à l'époque, donc il n'était pas connu. Et il avait une petite amie qui était danseuse à Aix-la-Chapelle, qui lui dit « Norbert, tu ne veux pas m'accompagner à Berlin parce que j'ai une audition pour passer dans un grand théâtre là-bas. » Et c'était l'occasion pour Norbert de partir à Berlin. Donc ils vont là-bas ensemble et sa copine fait sa démonstration de danse devant un auditoire restreint qui était fait du chef d'orchestre, du producteur, du metteur en scène. Et après l'audition, en fait, il y a un monsieur qui vient voir Norbert et lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Ben, il lui dit « Je suis assistant à Aix-la-Chapelle. Ah, »« Vous gagnez combien ?»« Je gagne tant. »« Vous ne voulez pas gagner trois fois plus ?»« J'ai besoin de vous à partir de lundi prochain ici. » Mais Norbert avait seulement joué du piano pour accompagner sa copine. Il se demandait mais comment imaginez-vous que je puisse diriger un orchestre ? Et le monsieur lui dit « Et vu comment vous jouez du piano et comment vous êtes synchrone avec la danseuse, comment vous l'attendez et vous l'anticipez, je suis sûr que vous saurez diriger un orchestre. Donc on vous prend à partir de lundi, dépêchez-vous, j'appelle tout de suite votre directeur d'Aix-la-Chapelle. » Et c'est comme ça que Norbert, finalement, passe de la musique classique à la musique de divertissement légère, qui était encore de la musique symphonique, c'était un grand orchestre, mais ça n'était plus de la musique classique, c'était il avait 20 ans, c'était l'intérêt d'être dans une grande ville, Berlin, la plus grande ville d'Europe au niveau culturel. Et lui qui avait toujours été pauvre, évidemment, il ne pouvait pas refuser d'avoir un salaire très sympathique pour son âge.
Et alors, donc ça, ça a duré jusqu'en 1933.
Ça a duré deux ans à peu près. Ouais, ouais. Et là-bas, ça lui a donné l'occasion de rencontrer des producteurs de films.
Avec lesquels il a composé de nombreuses musiques de films. On n'a malheureusement pas le temps de tout détailler. J'ai dit que ce serait une émission passionnante, mais il nous faudra trois fois plus de temps. Et de toute façon, je vous invite à venir écouter Serge Glanzberg parler de son père. Dès à présent, j'indique à nos auditrices et auditeurs que le mercredi 13 juin à 15h à la mairie du 4e arrondissement de Paris, Serge Glanzberg présentera donc la vie, l'œuvre de son père dans le cadre d'une conférence illustrée et ça sera passionnant. Donc ne manquez pas ce rendez-vous que je rappellerai à la fin de cette émission. On est obligé d'avancer un petit peu et donc en 1933, avec la sombre période du nazisme après l'incendie du Reichstag, votre père est obligé de fuir l'Allemagne, je crois, et c'est comme ça qu'il arrive à Paris. Alors vous avez commencé à nous dire tout à l'heure, à Paris ça n'a pas été facile, je crois.
À Paris il connaissait personne, donc il s'est retrouvé dans des chambres avec d'autres réfugiés allemands, où il partageait des chambres de bonne à 6, et puis chacun essayait de voir comment est-ce qu'il pouvait survivre. Donc il y a un type qui lui dit, tu devrais vendre des crayons dans le métro. Bon, ça marchait pas. Alors, un jour, il voit un accordéon d'occasion. Il avait quelques sous sur lui. Il achète cet accordéon. Il n'en avait jamais joué. D'ailleurs, il détestait l'accordéon. Mais pour lui, c'était un moyen de peut-être avoir quelques pièces. Donc, il va dans le métro. Il joue. Il était premier prix du conservatoire. Et les pièces ne tombent pas. Et puis, il y a un petit juif polonais qui passe par là et qui commence à lui parler en yiddish, étant donné que Norbert jouait le répertoire Kletzmer et le répertoire berlinois. Et Norbert lui dit, c'est quand même curieux ici, ça marche pas. Et l'autre lui dit, mais c'est pas ça qu'ils connaissent ici. Il faut que t'écoutes la radio, mon vieux. C'est pas du tout la même musique. Oui, mais ma maman m'avait dit que la musique, c'était international. Eh bien, c'était pas si international que ça, puisque des deux côtés du Rhin, on écoutait pas du tout la même musique. Et il s'est mis à écouter la musique française, qu'il trouvait d'abord très vulgaire. Il en a appris les arcanes. Et petit à petit, il s'est connecté avec des musiciens gitans, et il a des manouches. Et il a commencé à jouer régulièrement dans les bals. Voilà.
Et c'est comme ça, je crois, que par une de ces occasions, il a rencontré la môme Piaf, la oui. célèbre Edith Piaf, pour laquelle il va écrire par la suite de nombreuses chansons qui vont devenir des véritables tubes. Et je vous propose de ne pas bouder notre plaisir et d'écouter dès à présent une célèbre chanson de Norbert Glanzberg interprétée par Edith Piaf, « Mon manège à moi ».
Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble deux, quelle vie on a tous les deux, quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète, tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les plans de la fête, et la terre n'y est pour rien. Oh oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y a qu'elle sur terre, y a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous, y a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est droit.
Mon manège à moi, où tu me fais tourner la tête, de Edith Piaf, une chanson de 1958 composée par Norbert Glanzberg. Et avant de vous laisser la parole, Serge, sur justement Edith Piaf, juste une toute petite anecdote que je tiens du journaliste Bertrand Dical, que sur cette chanson qui a toute une histoire. Elle a été d'abord refusée par Yves Montand avant d'être créée par Edith Piaf. Et donc, selon Bertrand Dical, cette musique n'était pas au départ destinée à être une chanson, mais c'était une musique de film qui avait été composée par Norbert Glanzberg pour la scène du manège dans le film de Jacques Tati, Mon oncle. Et puis, il y a eu une inversion dans le studio d'enregistrement qui fait que cette musique, à l'origine prévue pour accompagner donc ce film, a été adressée à Edith Piaf, qui en a fait la célèbre chanson qu'on connaît. Et pour le coup, Norbert a dû réécrire une autre musique, une autre mélodie pour Jacques Tati. Et ce qui est tout à fait étonnant dans cette chanson, et c'est une nouveauté, c'est que, en fait, cette chanson se compose d'un refrain qui revient et qui tourne et qui tourne et qui tourne, comme le manège tourne, et cette ritournelle rentre dans la tête, et on ne peut plus du tout s'en passer. Et c'est comme ça que Piaf la chante de façon magnifique. Et justement, une question donc à propos d'Edith Piaf, comment votre père a-t-il connu donc Edith Piaf, cette rencontre ? Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Donc avant la guerre, Norbert était très souvent à Pigalle, place Pigalle, il y avait la bourse du travail des musiciens. Ils se retrouvaient le vendredi et le samedi matin, et chacun de demander à l'autre, alors qu'est-ce que tu as ce soir ? Est-ce que tu as un bal ? Est-ce que tu as un concert ? Un mariage ? Une bar mitzvah ? Et puis, il y a un manouche, un gitan, qui lui dit un jour, « Dis-moi, toi, du face. » Tu joues du piano, toi, mais tu connais ces airs-là, un petit peu de jazz ? Oh ouais, il n'y a pas de problème. Ben, viens ce soir au bal du Petit Jardin. Ok. Donc Norbert se pointe là-bas à 19h. Il avait très faim parce qu'il ne gagnait pas d'argent, donc il arrivait toujours en avance lorsqu'il avait des engagements. Et il essayait de sympathiser avec les serveurs pour avoir un sandwich, pour avoir quelque chose à manger, parce qu'il avait quelquefois pas mangé depuis 3 jours. Quand il jouait le week-end, il avait suffisamment à manger pour 2-3 jours, mais pas pour la fin de la semaine. Et puis, la soirée débute, ça se passe très bien. Il y a 5 manouches qui jouent de la guitare et des percussions à côté de lui. Et puis, à un moment donné, le directeur du bal du jardin dit « Écoutez, aujourd'hui, il va avoir une attraction spéciale. J'ai rencontré une petite chanteuse, une petite jeune, qui n'a jamais chanté avec un orchestre. » Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, voici la môme Piaf. Bon, personne ne la connaissait. Elle va voir le pianiste, mon père, qui ne connaissait lui-même pas l'orchestre, c'était la première fois qu'il jouait avec eux, et elle lui demande, est-ce que vous savez ce que je pourrais chanter ? Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson ? Et puis il y a le guitariste devant qui était en train de s'accorder, auquel il manquait quelques doigts, et qui lui dit, écoute, c'est pas à peine de parler à ce boche, il comprendra rien, mais dès que tu vas commencer à chanter, tu vas voir, il va te suivre. Et ce guitariste auquel il manquait quelques doigts, c'était Django Reinhardt. Et effectivement, voilà, ça se passe très bien. Norbert n'avait pas toutefois remarqué un talent particulier chez Edith Piaf. Ce n'était pas du tout le genre de voix qu'il aimait, puisque lui-même avait écouté les grandes chanteuses de blues américaines ou les grandes chanteuses d'opéra allemande. Et ce n'était pas du tout le genre de timbre qui lui plaisait. Donc il avait un souvenir amusé de cette rencontre, mais ça s'était aussitôt éclipsé.
Ce qui n'empêche pas qu'il va composer pour Édith Piaf des grands succès comme Padam Padam, notamment, que nous n'aurons pas le temps d'écouter ce soir. Mais il y a quelque chose qui me frappe quand même dans l'œuvre de votre père, Serge, c'est cet attrait pour les manèges et les fêtes foraines. Parce que mon manège à moi, c'est toi. Mais il écrit aussi, quelques 30 ans après, une pièce pour piano qui s'intitule « Musique pour une fête foraine ». Et qui est une musique qui, pour moi, j'ai été frappé, fait un peu le pendant de cette chanson « Mon manège à moi », tout en étant dans un style totalement différent. Et je vous propose d'écouter un extrait au moins de cette musique pour une fête foraine, toujours dans l'interprétation de Jeff Cohen et Noël Lee. Musique pour une fête foraine, toujours extrait du CD Yiddish Touch in Paris, un magnifique CD publié chez Arion en 2001 et interprété toujours par les grands Jeff Cohen et Noël Lee, de pianistes formidables. Hors micro, nous discutions, Serge Glanzberg. Moi, je vous disais que ça m'évoquait un peu Kurt Weill. Et vous me disiez qu'ils étaient quasiment contemporains, hein, à quelques années près. Et puis, vous me disiez également, je crois que cette terre aurait pu presque être chantée, non ?
Oui, en fait, Norbert aimait les mélodies qui restaient dans la tête. Et donc, quels que soient les thèmes, que ce soit pour des chansons, pour des musiques de films ou pour ses concertos, il avait des thèmes très définis et il s'amusait beaucoup à les harmoniser en fonction du style. Donc, quelquefois, ça pouvait reprendre une de ses mélodies en tango. Ça pouvait lui prendre de la reprendre en rhapsodie new-yorkaise à la Gershwin. Et il me montrait qu'une belle mélodie, quelle que soit son harmonisation, restait toujours une grande mélodie.
Et alors, votre père a travaillé, donc, on peut le rappeler, avec les plus grands interprètes, Charles Trenet, Tino Rossi, René Lebas, Édith Piaf, Yves Montand, Henri Salvador, Colette Reynaud, Dario Moreno, Luis Mariano, enfin, ainsi de suite, Mireille Mathieu, même Dalida, et j'en oublie. Et il a écrit, mais alors, je ne sais combien de chansons, est-ce qu'on sait exactement combien de chansons il a écrit? Parce que je crois que même certaines n'ont jamais pu être déposées à la SACEM, il me semble.
Alors, effectivement, lorsqu'il est arrivé en France, alors qu'il était premier prix du conservatoire et qu'il avait déjà fait 3 films, dont certains majeurs en Allemagne, il est arrivé en France et, en voulant s'inscrire à la SACEM pour percevoir ses droits, il a rencontré des difficultés. Des difficultés qui ont perduré jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que dans la période 33-39, et évidemment dans la période 39-45, il n'a jamais pu déposer une de ses œuvres à la SACEM et toucher les droits afférents.
Et ces difficultés étaient dues à quoi, en fait?
Alors, il a interprété ça par un antisémitisme latent qui traînait dans certaines institutions françaises.
D'accord.
Dont la SACEM. Voilà, ce qui a fait polémique récemment, on en a beaucoup parlé.
Mais je crois qu'il y a même des chansons qui ont été signées, enfin, qu'il a écrit pour d'autres qui ont été signées par d'autres, mais alors que c'était ses mélodies à lui. Donc.
Alors oui, mais alors ça c'est un autre cas. Ça c'est parce que l'homme à la petite moustache a envahi la France entre 1939 et 1945 et que les Juifs ne pouvaient plus exercer de métier intellectuel, il n'y avait plus de droit d'auteur, la SACEM avait tout bloqué sous ordre de Goebbels, le ministre de la Propagande, et Norbert, qui devait trouver un moyen de subsister, connaissait des musiciens, connaissait des chanteurs et vendait ses mélodies à des chanteurs qui étaient encore actifs pendant la guerre, comme Tino Rossi par exemple.
Alors je crois que pendant la guerre il a eu beaucoup de chance parce qu'il était à un moment même arrêté à Nice, si je ne m'abuse, et il a pu s'échapper dans des conditions un peu rocambolesques. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 1943, je crois.
Mmh. Alors effectivement, grâce en fait à ses fréquentations quelquefois douteuses, il était entouré non seulement par des gitans mais par des Corses. Il s'est fait attraper par la milice française. Il s'est fait dénoncer, en fait, par le guitariste de Tino Rossi, qui était jaloux de Norbert, parce que Norbert, justement, vendait régulièrement des musiques à Tino. Le guitariste de Tino était obligé de les transcrire pour son orchestre, essayait toujours de placer des musiques à Tino, n'y arrivait jamais. Et donc, il a certainement, on n'a pas de preuves, dénoncé à la milice française qu'il a arrêté et qu'il a mis dans une prison à Nice. Et lorsque Norbert est arrivé là-bas, il a dit qu'il n'avait jamais vu une aussi grande synagogue.
C'est excellent.
Il y avait peut-être 600 juifs, des séfarades, des ashkénazes qui chantaient, mais qui chantaient évidemment chacun leur rite. Mmh. Il y avait même des rabbins qui respectaient les rituels dans cette prison. Tout ça était très bien organisé par la police française qui ne voulait pas que les résidents s'affolent.
Oui, parce que malheureusement, la suite était moins drôle.
Voilà, on ne connaissait pas la suite. Et en fait, dans la geôle où était Norbert, il y avait aussi il y avait un type comme ça qui lui demandait de temps en temps « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es musicien, toi ?» Et un jour, il appelle le maton et il lui dit « Mais tu crois qu'il est musicien, ce mec-là? Fais-lui une petite interview. » Et le maton était corse. Et il dit à Norbert, mais alors, t'es musicien, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec qui? Et Norbert dit, oh ben tu vois, je joue avec plusieurs personnes, mais donc Tino Rossi. Tino Rossi? Mais c'était comme Napoléon pour les Corses. Mais tu déconnes, mais c'est pas possible. Et Norbert lui dit, mais si tu veux, je te le prouve. Quand est-ce que tu es off? Quand est-ce que tu as ton jour de congé cette semaine? Mais écoute, moi, vendredi soir, je suis de congé. Et ben tu vas à l'hôtel, c'était l'hôtel Negresco, je crois. Tu vas à l'hôtel Negresco à 19h30 au bar, et là-bas tu vas voir Tino Rossi. Tu lui emmènes un disque pour te faire dédicacer, et tu lui dis que tu es le geôlier de Norbert Landsberg, dit Nono. Tu crois? Mais vas-y! Donc le geôlier se fait beau, il arrive à l'hôtel Negresco. qui est jamais entré dans un hôtel comme ça, c'est extraordinaire. Il arrive au fond, au bar, effectivement, Tino lit le journal, avec ce qu'on appelait la French Connection, avec tous les plus grands mafieux corses qui étaient ses amis, et lui dit, je suis le geôlier de Norbert Landsberg. Tino appelle tout de suite ses amis, ses compères, et dit, hey, voilà un cousin, il va nous sortir Norbert de tôle. Hey, tu fais bien d'être ici, toi, qu'est-ce que tu bois? Et le geôlier se trouve complètement coincé par des types qui étaient évidemment armés sur eux et qui lui disent, voilà, maintenant on va organiser
l'évasion de
Norbert et la suite à la conférence.
Oui, bah oui. Donc voilà une raison de plus pour venir à cette conférence si vous voulez connaître la suite de cette évasion rocambolesque, mais qui a sauvé la vie à Norbert Landsberg, parce que malheureusement ses autres co-détenus ont été déportés et ont péri pour la plupart dans les camps de concentration. Serge, après-guerre, votre père va enfin pouvoir accéder à la reconnaissance et il compose ses chansons les plus connues dans les années 1950, comme celle qu'on a entendue, Mon manège à moi, mais bien d'autres encore, Les grands boulevards et d'autres. Mais comme pour de nombreux compositeurs, sa carrière enregistre une éclipse avec la vogue yéyé et le rock'n'roll au début des années 1960. Même s'il continue à composer des musiques de films et des chansons pour des jeunes vedettes comme Mireille Mathieu, on l'a dit, mais également Petula Clark et Dalida, dont je vous propose d'écouter un court extrait d'une chanson composée par Norbert Landsberg qui s'appelle « Tout se termine ».
Se déchire dans le jour qui doucement venait. Tu me demandes alors d'oublier notre amour. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, car je t'aime. Auprès de moi, là tout contre moi, ne pars pas.
Donc tout se termine, un extrait de la chanson de Dalida, mais pour Norbert Landsberg, tout ne se terminait pas, puisque au début des années 1980, la carrière donc, de votre père Serge va connaître un nouveau tournant. En fait, il abandonne définitivement la chanson et retourne peut-être à ses premiers amours, puisqu'il se met à composer des musiques que l'on qualifie aujourd'hui de savantes. Tels par exemple les Holocaust Leader ou Holocaust Song. Les Holocaust Leader sont neuf leaders pour bariton et piano sur donc, des poèmes inspirés par les camps de concentration. Et puis suivra en 1985 la suite Yiddish dont on a entendu tout à l'heure la première pièce. Serge, comment ce retour s'est fait à cette musique savante? Pourquoi votre père s'est tourné s'est retourné plutôt vers cette musique qu'il jouait, comme vous l'avez dit, tous les jours à son piano, et il va se mettre à composer. Qu'est-ce qui l'a motivé?
Il était tombé sur un livre de Isaac Bashevis Singer qui avait été prix Nobel à la fin des années 70, et en relisant, en fait, pas en relisant mais en lisant ce livre, il redécouvre le monde du petit village du shtetl, du petit village polonais qu'il n'avait pas connu mais dont lui avaient parlé ses parents, et il se souvient des mélodies que lui chantait sa mère lorsqu'il était petit. Elle ne jouait d'aucun instrument mais elle chantait merveilleusement bien. C'est certainement elle qui lui a communiqué sa musicalité, et il s'amuse à harmoniser ces thèmes qu'il n'a plus entendus depuis son enfance, donc qui sont évidemment déformés. C'est de la tradition orale, et il les développe de plus en plus jusqu'à en faire un concerto qui est la suite yiddish. Ensuite, il va, il se promène un jour, il était nostalgique de ne plus parler l'allemand, donc il va à l'Institut Goethe, avenue d'Iéna, où il connaît très bien tout le monde, c'est un petit peu sa cantine, il discute avec tout le monde, il va à la bibliothèque et il tombe sur un livre, un recueil de Suran qui s'appelle « La mort est le maître de l'Allemagne ». C'est une mauvaise traduction, mais bon. C'était en fait Suran qui avait recueilli des poèmes de résistants juifs et non-juifs au Troisième Reich. Donc des gens qui étaient incarcérés, des gens qui étaient en planque ou des gens qui étaient carrément condamnés à mort pour le lendemain. Et il ne peut pas rester dans son fauteuil en train de lire ça. Il est mu comme par les anges vers le piano. Il lit son livre de recueil de poèmes au piano et puis ses mains petit à petit pour exprimer son empathie, pour exprimer cette émotion insupportable de ne pouvoir aider ces gens qui sont pour la plupart disparus dans des situations atroces et surtout injustes, il les met en musique.
Et c'est comme ça qu'il compose les Holocaust Lieder ?
Voilà, qui sont, ça s'appelle des, donc les chants d'Holocauste. Heureusement, tous ceux qui ont écrit ces textes ne sont pas morts. Il y en a qui ont survécu, que Norbert a contacté, et qui ont été très heureux d'entendre ce que vous allez maintenant pouvoir apprécier.
Alors, on va entendre tout de suite une de ces pièces qui s'intitule Für Hülle, qui est donc interprétée ici par le baryton Roman Trekel, accompagné par l'orchestre de Mulhouse, dirigé par Daniel Kleiner, dans un CD qui vient de paraître, qui s'intitule Norbert Landsberg.
Das Volk, das ist viel zu klein, das Menschenvolk wird dir ein Vater sein. Ein ganzes Volk ist viel zu klein, das Menschenvolk wird dir ein Vater sein.
Für Hülle, un des magnifiques chants de l'Holocauste interprété ici donc par le baryton Roman Trekel, l'orchestre de Mulhouse dans un disque publié par MDG il y a pas longtemps je pense, donc consacré, qui s'appelle tout simplement Norbert Landsberg, une pièce absolument magnifique. Ce que vous souhaitez commenter, je crois, Serge Landsberg, ce poème, que dit-il, que dit cette chanson?
C'est un prisonnier qui sait qu'il va être condamné à mort demain. Et il écrit un poème d'adieu à son fils en lui disant de faire confiance, en lui disant qu'il restera avec lui, que lorsqu'il lèvera les yeux et qu'il trouvera une étoile sur son chemin, ce sera lui et qu'il essaiera de continuer à le guider puisqu'il ne pourra pas l'éduquer comme il aurait souhaité en tant que père sur cette terre.
Un thème terrible. Et je vous propose d'écouter pour finir cette émission un autre extrait de ces magnifiques leaders. Donc, le dernier extrait qui s'intitule « Die letzte Epiphanie ».
Ich habe ihm Boten und Boten gesandt, in vielen Gestalten bin ich gekommen, ihr aber habt mich in keiner erkannt. Ich klopfte bei Nacht, ein bleicher Hebräer, ein Flüchtling gejagt mit zerrissenen Schuhen. Ihr riefet die Schergen, ihr winktet im Speer und meintet, oh, Gott, einen Dienst zu tun. Ich kam als zitternder Greiser, Alter mit stummem Angstgeschrei. Ihr aber sprachet vom Zukunftsgeschlechte und nur meine Asche gabt ihr frei. Verwaister Knabe auf östlichen Flächen, ich fiel euch zu Füßen und flehte um Brot. Ihr aber schenktet ein künftiges Rächen, ihr zuckt die Achsel und gabt mir den Tod. Ich kam als Gefangener, als Tagelöhner, verschleppt und verkauft, von der Peitsche zerfetzt. Ihr wandtet den Blick von dem struppigen Fröhner, nun komm ich als Richter. Erkennt ihr mich jetzt? Erkennt ihr mich jetzt?
Ce chant sur le Kust a été écrit par Norbert Rosberg sur un poème d'un prisonnier qui allait être condamné le lendemain. Et ce prisonnier dit en fait à ses bourreaux, vous m'emmenez ici comme prisonnier, c'est vous qui devriez être mis à mort demain, mais mon spectre s'occupera de votre fin et la justice sera rétablie. Je m'en occuperai.
Merci beaucoup Serge Gainsbourg de nous avoir fait découvrir, ou plutôt entreapercevoir, la richesse de l'œuvre de Norbert Gainsbourg. Malheureusement, il est déjà l'heure de nous quitter et je ne peux que recommander à nos éditrices et auditeurs de découvrir cette œuvre de Norbert Gainsbourg, notamment celle moins connue que l'on a découvert en fin d'émission et tout aussi belle de ses œuvres classiques. Et surtout, je vous invite à venir assister à la conférence musicale que Serge Gainsbourg consacrera à son père le mercredi 13 juin 2012. En mairie du 4e arrondissement de Paris, dans le cadre du Festival des Cultures Juives. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette manifestation sur le site internet du Centre français des musiques juives, www.cfmj.fr. Vous pourrez également y réécouter les émissions précédentes qui sont en ligne sur ce site. Serge Gainsbourg, merci infiniment encore.
Merci à vous.
Au micro, Hervé Rotten, David à la technique. Le Centre français des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
Sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mighty.